Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'ASAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables, mais aussi plus vivantes et vibrantes. La deuxième rencontre, demain des artistes associés à la Fabrique Urbaine, a eu lieu le jeudi 13 octobre 2022 avec Pascal Lebrun-Corzier, directeur artistique des ZAT et du programme d'urbanisme culturel Transat, et Alsti King, artiste à Montpellier. Voici l'enregistrement intégral de cette soirée, introduite par Damien Vieillevigne, architecte urbaniste et président de la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée.
Alors, la rencontre de ce soir s'intitule « Demain, des artistes associés à la Fabrique de la Ville ». Et nos deux invités sont Pascal Lebrun-Corzier et Al, ou Alsti King. Et donc, je vais vous présenter brièvement. Donc, Pascal, tu es directeur artistique et fondateur des ZAT, les zones artistiques temporaires, à Montpellier. Tu es professeur associé à l'École des arts de la Sorbonne. Tu as créé en 2005 le master culturel de projets culturels dans l'espace public. Al, tu es un artiste connu pour tes interventions dans l'espace public, et notamment avec des collages en grand format. Tu as aussi beaucoup voyagé pour nourrir ton œuvre artistique dans ce que tu as appelé tes vagabondages, qui, je crois, sont toujours en cours, si je ne me trompe pas. En 2012, avec Small et Salamèche, tu as investi une maison destinée à la destruction pour la transformer en une œuvre architecture. Et nous avons eu tous, je pense beaucoup en tout cas de ceux qui sont ici, je l'espère, eu plaisir à la visiter pendant une assez longue période. Finalement, c'était assez intéressant et librement. En 2017, à l'invitation de Numa Ambursin, qui est, je crois, là-haut, derrière, à l'invitation de Numa Ambursin, tu réalises ta première exposition personnelle au Carré Sainte-Anne, Mécanisme d'aurore pour horloge crépusculaire, et c'était un très très grand succès, il faut le dire. Et puis, pour citer encore un moment marquant de ta carrière, en 2021, tu conçois le projet artistique Mémoriel Delta, je crois que vous allez aussi en parler, sur le site de la Friche de Mimi. Donc, je ne serai pas très long, Pascal, en tant que co-organisateur de ce cycle, parce que là, tu vas nous faire une présentation, mais tu en es aussi le co-organisateur, je te laisse dire quelques mots, et notamment peut-être de la SAT.
Oui, ben je vais dire quelques mots sur toi aussi, parce qu'en fait, c'est Damien Vieillevigne, président de la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, qui, avec qui j'ai le plaisir d'organiser ce cycle et qui parle depuis tout à l'heure. Oui, je vais dire effectivement un tout petit mot sur la ZAT qui co-organise avec la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée ce cycle. La ZAT revient, elle aura lieu le 11 et le 12 novembre à Antigone. La ZAT, c'est la zone artistique temporaire, un projet artistique et culturel dans l'espace public. Spectacle vivant, art visuel, performance, projet participatif, exposition. Le programme sera annoncé demain, donc je ne peux rien vous dire, il faut encore un tout petit peu patienter. Ce que je vais juste te dire, c'est pourquoi nous avons organisé ce cycle, avant de te redonner le micro, Damien, c'est que nous pensons que ces questions liées à l'espace public que nous abordons ici chaque mois, elles doivent être abordées sous deux angles. L'angle de la fabrique urbaine en dur, la conception des espaces publics, l'architecture, l'aménagement spatial, mais aussi l'angle soft, c'est-à-dire l'activation de la ville, la production d'urbanité au sens social, au sens poétique aussi. Et il ne faut donc pas dissocier ces deux dimensions, il faut essayer de les articuler. Et c'est pour ça qu'on a imaginé ce cycle, avec l'objectif qui est de rassembler chaque mois des professionnels, des étudiants également, qui œuvrent soit dans le champ de l'urbanisme, soit dans le champ de l'art et de la culture, et qui œuvrent de fait à l'intersection de ces deux domaines, généralement, pour transformer l'espace public. On va en parler tout à l'heure, donc je ne suis pas plus long.
Merci Pascal. Je vous dirai deux mots pour la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée. Je vais quand même un peu prêcher pour ma paroisse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Maison de l'architecture, c'est une association qui a pour objet la diffusion de la culture architecturale auprès du plus grand nombre et la sensibilisation, notamment dans le milieu scolaire. Nous organisons aussi des conférences, c'est le cas ici. Nous organisons aussi des ciné-plénaires, peut-être que vous en avez déjà profité, Cinéarchie, notamment sur la place Sainte-Anne. Nous organisons aussi, et beaucoup y participent, c'est de vrais succès à chaque fois, les Archi-City, qui sont des visites architecturales, mais aussi des visites de quartier, et ce qu'on a appelé aussi les Archi-Pays, les Archi-Pays qui sont en fait les Archi-City, mais plutôt sur le territoire un petit peu plus large et quelquefois un peu plus rural. Enfin, avec nos partenaires, parce que nous en avons beaucoup, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir tous les énumérer ici, mais par exemple, avec l'école d'architecture, nous organisons un concours tous les ans à destination des étudiants, et peut-être qu'il y a des étudiants dans la salle qui y ont participé. Et donc, nous souhaitons vous voir de plus en plus nombreux à nos côtés pour ensemble diffuser la culture architecturale et aussi participer à ce type d'événements et nous sommes heureux donc d'être ici ce soir pour pouvoir justement vous écouter. Alors maintenant place à la rencontre, je te laisse cher Pascal démarrer ta présentation et juste pour l'introduire je citerai qu'une phrase extraite d'un article que tu as toi-même écrit et que je trouve très belle pour le coup, c'est pas pour se faire de l'autocongratulation, mais tu as dit, et je pense que ça introduit bien aussi le propos, de plus en plus d'artistes ne cherchent plus seulement à créer dans la ville, mais à créer de la ville. Voilà, Pascal, à toi.
Ah, écoute, je crois que tu as tout dit. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que cette phrase résume en fait le propos. Alors, on a appelé notre cycle Demain l'espace public et cette deuxième rencontre porte sur les artistes dans la fabrique de la ville demain. Mais en fait, les artistes sont déjà dans la fabrique de la ville. Ça fait déjà un moment. Et voilà, je vais commencer du coup par poser une question très simple. C'est qui fait la ville ? Qui fait la ville ? On peut considérer que la ville est faite par les municipalités, les métropoles, l'État, les aménageurs, les promoteurs immobiliers, les archis, urbains, paysagistes, les bailleurs sociaux, le secteur du BTP, mais aussi les habitants, les vivants non humains, les artistes, les acteurs culturels, les activistes et les artivistes également, et encore beaucoup d'autres. Cette première question, en fait, elle me permet tout de suite de citer un auteur, Henri Lefebvre, qui a publié, à la fin des années 60, un ouvrage très intéressant, très important, Le droit à la ville. Et dans cet ouvrage, Henri Lefebvre disait, mais la ville, il faut qu'elle soit faite pas uniquement par les experts urbanistes, pas uniquement par les techniciens, mais aussi par les habitants. Et donc, c'est une porte d'entrée pour le sujet de ce soir, c'est donner une plus grande place aux habitants et aussi aux artistes. D'ailleurs, dans son livre, Henri Lefebvre critique la ville métallique, la ville fonctionnelle, la ville qui oublie l'imaginaire et la fête, et il plaide aussi justement pour donner une dimension artistique et culturelle plus forte à la ville. C'est une référence importante pour nous dans ce champ de l'urbanisme culturel. Et puis je citerai aussi tout de suite Joël Zask, qui dans un ouvrage sorti il y a deux ans, Zoocities, évoque la place des animaux et en fait plus largement des vivants non humains dans nos villes aujourd'hui. Et donc voilà, ce sont des questions, cette question pardon de qui fait la ville, elle doit être reposée inlassablement et à l'aune en particulier des transformations que nous connaissons. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Alors comment les uns et les autres font la ville? En produisant des espaces, des temps, des situations, des communautés, des usages, des paysages, des imaginaires et des récits, et notamment, et là je les ai mis en rouge parce que c'est évidemment d'eux que nous allons parler ce soir, les habitants, les artistes, les acteurs culturels et aussi les activistes ou les artivistes. Donc nous produisons des espaces, des temps, des situations, des usages, des paysages, des imaginaires, des récits. C'est la porte d'entrée dans notre sujet ce soir. Et donc comment passe-t-on de la création dans l'espace public à la création de l'espace public. Je vais résumer ma présentation en deux images. L'art dans la ville, ça a longtemps été la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire des objets qu'on pose une fois que la ville est faite, une fois que la ville est terminée. Mais ce dont nous allons parler ce soir, c'est d'une autre manière d'envisager l'art dans la ville, qui est plutôt celle du clafoutis. C'est-à-dire, on va essayer de mettre la cerise artistique dans le gâteau urbain, d'intervenir bien en amont, bien en amont dans la fabrique urbaine, de manière à ce que l'acte artistique, encore une fois, puisse advenir avant même la conception des espaces. Et il s'agit de considérer aussi la création artistique non pas comme un simple exhausteur de goût, mais comme un ingrédient possiblement déterminant en dialogue avec les architectes, les aménageurs, les bailleurs, les urbanistes. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. D'un art contextuel, c'est-à-dire qui joue avec le contexte, qui se nourrit du contexte et qui contribue de cette façon à la fabrique de l'urbanité, notion que j'évoquais tout à l'heure. L'urbanité, c'est une notion qui a deux faces, une dimension spatiale et une dimension sociale. C'est l'urbe, c'est la civitas dont parlaient les Latins, les Romains. Ce qu'on cherche à faire dans ces démarches dont je vais parler dans quelques minutes, c'est à faire advenir une ville sensible. Alors je voulais poser cette notion en ouverture, la ville sensible, c'est une notion qui, de mon point de vue, a trois dimensions, trois facettes. Une dimension esthésique, c'est la sensation, une dimension éthique et une dimension politique. La dimension esthésique, ce que nous cherchons à faire, donc, lorsque nous intervenons dans la ville, c'est à développer cette sensorialité, à l'exacerber pour donner à la ville plus de saveurs, de couleurs, de textures, de parfums, de manière à ce que la ville, par la richesse de ses reliefs sensoriels, puisse intensifier notre sentiment d'existence. Ça, c'est la première facette de la ville sensible. La deuxième, c'est la ville sensible au sens éthique du terme, c'est-à-dire une ville sensible à la diversité de ses habitants, aux plus précaires, aux plus fragiles, aux plus jeunes, aux réfugiés, à toutes celles et ceux qui sont dans la ville. Donc la ville sensible, c'est une ville sensible à ces personnes, dans leur diversité, et aussi à ce qui les affecte, à ce qui leur importe. Et enfin, la ville sensible, dont on va parler au travers de nombreux projets dans un instant, c'est une ville plus juste, c'est-à-dire une ville qui cherche un partage du sensible, notion proposée par le philosophe Jacques Rancière, qui rend imaginable et possible le bien vivre et aussi le droit à la ville que j'évoquais tout à l'heure. C'est donc la ville sensible, dans cette troisième acception, une ville qui se veut alternative à la ville hostile, à la ville stérile, aux métropoles barbares dont parle Guillaume Faburel, un chercheur qui critique ces trop grandes villes finalement qui tuent le vivant et les possibilités de vie. Voilà trois dimensions de la ville sensible, esthésique, éthique et politique. On pourrait résumer aussi l'ensemble des projets dont je vais parler après en disant qu'ils cherchent et nous cherchons à faire une ville aussi des villes plus vivables, plus vivantes et plus vibrantes. Voilà, c'est une autre manière encore de résumer les enjeux dont il va être question ce soir. Et la dernière façon d'introduire en fait notre sujet, c'est en disant qu'il s'agit également de passer de la ville fonctionnelle à la ville relationnelle. C'est un sujet qu'on avait abordé lors de la première rencontre, le 13 septembre, avec Chantal Decmine et Mathilde Tourniol-Duclos. Longtemps, la ville n'a été pensée que comme une série de fonctions à gérer. C'était le propre de l'urbanisme moderne que de penser les fonctions urbaines de manière séparée, généralement d'ailleurs. Et là, avec les projets dont je vais parler, ce dont il est question, c'est plutôt de développer une ville relationnelle, une ville de la relation. Donc sortir de cette approche portée notamment par Le Corbusier et par la charte d'Athènes au début du XXe siècle, un urbanisme très technicisé, une architecture de l'isola, on a des objets, des blocs qui sont isolés les uns des autres et qui ne tissent pas finalement la trame urbaine véritablement, pour aller vers une ville relationnelle, c'est-à-dire qui s'intéresse d'abord aux relations entre les parties, entre les personnes, entre les vivants. Et la ville relationnelle, ce sera justement le sujet de la troisième rencontre qu'on organise le 8 novembre avec une anthropologue suisse, Sonia Lavadigno, qui développe cette notion de ville relationnelle. C'est-à-dire une ville donc qui ne dissocie pas l'urbs et la civitas dont j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire le dur de l'architecture et le soft du social pour aller vite. Alors, on va donc parler de l'urbanisme culturel. L'urbanisme culturel, on pourrait le définir de cette manière-là. C'est un urbanisme qui va envisager la puissance et la finesse de la création artistique dans tous ses domaines, mais aussi les pratiques artistiques, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire sans être artiste professionnel, comme mon voisin de gauche, ce que nous pouvons faire dans le registre de l'expression, et qui va envisager aussi la profondeur de la dimension culturelle, et ça dans les différentes phases de la fabrique urbaine officielle, pour les enrichir entre autres, mais aussi en dehors des processus institutionnels de la fabrique urbaine. Et tout ça pour agir sans attendre, c'est l'urbanisme tactique dont je vais dire un mot très rapidement, mais finalement pourquoi ? Pour faire advenir des urbanités vivables, donc vivantes et vibrantes, comme je l'ai dit. Ça c'est la définition que je propose pour cerner en fait ce qu'est l'urbanisme culturel. Donc c'est un urbanisme qui rappelle des pratiques que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'urbanisme tactique, qui consiste à intervenir de manière très rapide dans la ville pour la transformer. C'est ce qu'on fait lors du Parking Day, le troisième vendredi du mois de septembre chaque année depuis très longtemps. C'est un collectif de San Francisco qui a lancé le Parking Day. C'est ce qu'on fait quand on pose pour quelques jours ou quelques semaines des objets dans la ville pour la transformer temporairement, parfois pour créer des pistes cyclables pirates, comme vous le voyez sur cette image. Donc l'urbanisme culturel dont je vais parler, il a à voir avec l'urbanisme tactique, avec ce qu'on appelle aussi l'acupuncture urbaine, c'est-à-dire intervenir à des endroits extrêmement précis dans l'espace public, dans des quartiers, pour essayer de transformer de manière plus globale la ville. L'acupuncture urbaine, hein, c'est trouver des points d'intervention dans l'organisme urbain pour produire des effets à plus grande échelle. Alors, cette introduction est terminée, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, et comment passer donc d'un art posé à un art intégré, possiblement dans les 7 temps de la production urbaine. Alors, les voici, les 7 temps de la production urbaine. On va les prendre les uns après les autres, le temps du diagnostic, le temps de la concertation, de la conception. On s'intéressera ensuite à la transition, au chantier, au moment de la livraison, et enfin à l'activation. Ça, c'est la production urbaine dans toutes les villes. On avance de cette manière en suivant ces différentes étapes dans la production officielle de la ville. Alors, le premier temps, c'est celui du diagnostic. Aujourd'hui, quand on fait la ville, depuis longtemps, on fait des enquêtes, bien sûr, on a des sociologues, des observateurs, des études techniques qui sont produites. Et là, les artistes dont je vais parler, ils contribuent à ce travail d'enquête, de diagnostic, mais avec des outils un peu surprenants. C'est le cas de la psychanalyse urbaine. Vous connaissez peut-être l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. C'est une science poétique, la psychanalyse urbaine, qui envisage la ville comme un être vivant, qui a donc, comme tout être vivant, une vie psychique, une vie inconsciente, et aussi des névroses. Et le but de la psychanalyse urbaine, c'est de psychanalyser la ville et d'essayer de détecter ces névroses, de comprendre ce qui ne va pas, de quoi elle souffre, pour ensuite proposer des traitements et pour essayer de guérir la ville. Donc cette science poétique, qui nous fait souvent beaucoup rire, est aussi une approche très fine, très subtile, fondé sur un travail d'enquête extrêmement sérieux, mais avec un effet de décalage qui met tout le monde en marche pour penser autrement les questions urbaines. La psychanalyse urbaine, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine est venue à Montpellier déjà en 2010 lors de la première ZAT et en 2011 lors de la troisième édition de la ZAT pour psychanalyser Antigone et pour psychanalyser le quartier Port-Marianne et pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans ces deux quartiers et de proposer des solutions. Alors, je vous ai dit que la programmation de la ZAD serait annoncée demain, et que je n'allais pas pouvoir vous révéler, bien sûr, cette programmation, puisque c'est le maire de Montpellier qui va l'annoncer demain à 10h. Néanmoins, je peux vous dire que peut-être que la psychanalyse urbaine sera de retour à Montpellier lors de la ZAT le 11 et le 12 novembre, car Montpellier, comme toutes les villes, n'en a pas fini avec son inconscient et doit continuer à s'interroger, bien sûr, et à explorer ses névroses pour tenter d'aller mieux, bien sûr. Alors, si cette question de la psychanalyse urbaine vous intéresse, je vous recommande la lecture de la revue Klaxon, qui est une revue téléchargeable en ligne gratuitement. Il y a un article qui explique en détail ce qu'est cette approche. C'est un premier exemple d'une approche artistique, mais qui n'est pas seulement artistique, mais qui se revendique comme artistique, pour enrichir les diagnostics. On pourrait aussi parler de la géographie subjective. La géographie subjective, c'est produire des cartes à partir des expériences, du ressenti d'une partie de la population, des enfants, des femmes migrantes qui arrivent dans une ville, des personnes en situation, des personnes à mobilité réduite, etc. C'est comment les uns et les autres nous vivons et nous voyons la ville, et comment ensuite nous pourrions transcrire ça dans des cartes. Donc il y a ainsi en France plusieurs personnes qui produisent de la cartographie subjective, de la cartographie sensible, et c'est une manière extrêmement intéressante de nous aider à rendre compte, pour nous aider à comprendre, pardon, que nous n'habitons pas exactement la même ville les uns et les autres. Alors avec mes étudiants, on a produit par exemple dans un quartier de la ville de Nanterre une carte avec les enfants, et cette carte permet de voir les endroits qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas, là où ça sent bon, là où ça sent mauvais, là où ils aimeraient voir autre chose, et renseigne encore une fois les pouvoirs publics, les aménageurs, les paysagistes, les adultes de manière générale finalement, sur leur perception de la ville et leurs possibles propositions. L'enquête, le diagnostic, on peut le faire de mille manières. Là, c'est un collectif qui pose des bancs équipés de puces RFID pendant plusieurs jours dans un parc. Et ensuite, les gens vont s'emparer de ces objets qui sont assez étonnants et vont les déplacer pour se mettre à l'ombre ou au soleil. Et donc, le travail en fait de ce collectif, c'est de renseigner finalement les professionnels de la fabrique de la ville sur les usages et pour adapter ensuite les aménagements. On pourrait, dans cette première phase du diagnostic, évoquer de nombreuses démarches comme aussi le travail de la compagnie Décor Sonore qui travaille sur le paysage sonore et encore beaucoup d'autres, des photographes, des artistes marcheurs, des vidéastes qui ont mis l'enquête au cœur de leur démarche. L'enquête, non pas au sens statistique bien sûr, mais l'enquête au sens philosophique et politique comme le philosophe John Dewey ou Tim Ingold l'envisagent, c'est-à-dire une enquête non pas sur les habitants mais avec les habitants. Ça, c'est le premier temps de la fabrique de la ville. Le deuxième temps, c'est la concertation. La concertation, c'est une phase qui est parfois obligatoire dans la production de la ville et qui se fait par des réunions publiques, des procédures qui sont parfois assez conventionnelles, parfois plus innovantes, mais qui peinent généralement à trouver véritablement la population dans sa diversité en face d'elle. Et donc on a là encore des artistes qui vont imaginer des protocoles, des dispositifs, des spectacles, des installations qui permettront d'élargir le cercle finalement des participants à la concertation, comme le collectif Gongle avec Cuesta il y a quelques années à Saint-Denis, qui ont imaginé un jeu, une compétition qui permettait de mettre en lien des groupes d'habitants et qui permettait de les faire parler sur le quartier d'une façon très créative et très détournée, puisqu'il s'agissait en fait de développer des commentaires sportifs sur des matchs décalés, et tout en parlant encore une fois de la ville et de ses transformations. On pourrait citer aussi le plasticien Olivier Grostet, qui est venu à Montpellier d'ailleurs dans le cadre d'une ZAT il y a quelques années, et qui lui produit des constructions monumentales avec des cartons. Et cette architecture vivante, collaborative, participative, c'est aussi une façon finalement de prendre à bras le corps la fabrique de la ville, de faire l'hypothèse que nous pouvons tous construire des édifices. C'est un jeu bien sûr, mais qui nous engage dans une forme de relation avec la ville. La concertation, elle est envisageable de mille manières. Là, c'est à Copenhague, un collectif Superflex qui, il y a quelques années, a simplement demandé aux habitants « Mais qu'aimeriez-vous voir dans votre quartier ?» Et ça a donné lieu à un des parcs les plus incroyables en Europe, qui s'appelle Superkilen, où le collectif Superflex avec l'agence Big ont simplement posé des objets venus du monde entier, suggérés par les habitants. Donc la concertation, elle peut être renouvelée, vivifiée par ces démarches artistiques qui nous engagent finalement dans une relation à la ville, dans un travail d'enquête collectif et démocratique, à même de donner encore une fois plus d'ouverture à ces démarches de concertation. Le troisième temps, c'est le temps de la conception. Et là, je vais évoquer des artistes qui proposent des aménagements, qui proposent des équipements dans la ville, qui sont néanmoins aussi toujours des œuvres d'art. C'est ça qui est intéressant, je crois, dans ces démarches, comme par exemple ce lampadaire de Benedetto Bufalino, qu'on peut voir en Alsace, mais qu'on peut voir aussi à La Défense. Et donc, c'est une voiture qui, le soir, s'illumine et produit de la lumière. On pourrait citer également ces bancs de Jep Hein, ces bancs socialement modifiés, qui ont une valeur d'usage, évidemment, on peut s'asseoir, on peut contempler le paysage, mais qui induisent aussi des relations singulières entre les personnes et entre nous et la ville et le paysage. Donc, valeur d'usage et en même temps décalage, poésie, c'est bien ce qui est intéressant dans ces objets, à la fois œuvres et mobilier urbain. On pourrait également citer Pablo Reynoso, qui lui construit des bancs spaghettis. Voilà, encore une fois, des œuvres tout autant que des objets urbains. À Nantes, le banc géant de Claude Ponty. Bon, il est plus difficile de s'asseoir, mais on peut faire un peu de musculation sur ce banc. Là, c'est une station de tramway d'Anita Molinero, qui se trouve porte de la Villette. Et Anita Molinero a voulu introduire une poésie surréaliste dans le quotidien urbain. On a donc ces objets qui nous protègent de la pluie, du vent ou du froid ou du soleil et qui sont parsemés de détails qui signalent à l'observateur un peu attentif que quelque chose de particulier s'est produit ici. Hein. On cherche presque le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est un espace de jeu pour les enfants. À Nantes, le dragon de Kinya Maruyama. Donc c'est un toboggan, un parcours, mais c'est bien plus que ça, bien sûr. C'est un ogre, c'est un dragon, c'est un monstre assez incroyable qui se découvre au loin et qui se traverse pour les enfants les plus téméraires. Encore un lampadaire surréaliste. Là, nous sommes à Montpellier. En 1966, Vasarely a imaginé ce portail à l'université. Un autre portail, ici, c'est un inventaire de la ferronnerie parisienne qui est reproduit sur ces grilles de Pascal Pinault. Ici, ce sont des fontaines coup de poing. Ce sont des points d'eau puisque en appuyant sur le point de ces personnages, l'eau sort et elles sont disposées le long du boulevard Davout dans le 20e arrondissement. Ces fontaines de Pascal Martine Taillou, fontaines relationnelles, envoient aussi un signal aux populations d'origine africaine qui sont nombreuses à habiter ce quartier. On pourrait également citer le tram de Strasbourg. Les annonces du tram sont faites par des habitants enregistrées par Rodolphe Burger. On entend ainsi des voix d'enfants, de personnes âgées, d'Alsaciens ou de non-Alsaciens qui ont du mal à prononcer les noms des stations. Voilà. La conception, l'aménagement urbain, ça peut être aussi le travail à La Roche-sur-Yon de la compagnie La Machine avec les animaux de la place. Sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon, il y a ces sculptures que l'on peut animer, qui habitent la place et qui créent aussi tout un imaginaire au cœur de la ville. Évidemment, l'éléphant de La Machine, l'éléphant qui est à la fois une œuvre, un moyen de transport et une pièce urbaine. L'éléphant, c'est un fragment d'urbanisme à Nantes, tout comme l'ensemble des machines de l'île de la compagnie La Machine. Voilà, la conception, ce sont aussi des gestes parfois, des gestes d'hospitalité. Donc là, j'évoquerai le pôle d'exploration des ressources urbaines, le Pérou, qui mène un travail assez passionnant depuis de nombreuses années sur la question de l'hospitalité et des gestes d'hospitalité. Donc dans une approche plus pirate finalement, dans ce projet en tout cas, le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, propose de transformer la ville en célébrant l'hospitalité en acte. Le quatrième temps dans la fabrique urbaine, c'est le temps de la transition. On le sait, lorsqu'il y a une opération urbaine, il faut parfois attendre des années avant que les travaux ne commencent. Et que va-t-on faire en attendant ? Eh bien, vous le savez de plus en plus, et à Montpellier en particulier, on développe ce qu'on appelle un urbanisme transitoire, un urbanisme de la transition. On peut occuper des espaces, des friches notamment, et beaucoup d'artistes justement s'impliquent, s'investissent dans ces projets. Alors, un des projets les plus connus, c'est celui des Grands Voisins, qui s'est déroulé pendant 5 ans dans un ancien hôpital, l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, et qui a permis de faire exister une sorte de laboratoire culturel, social, économique, politique finalement, au cœur de la ville, avec des aménagements qui développaient la convivialité, qui facilitaient la rencontre et l'échange. Voilà le projet des Grands Voisins, un projet d'urbanisme transitoire dans lequel les artistes avaient une grande place. Et justement, la question de la place est très importante. Comment on aménage l'espace ? Comment faire en sorte que l'espace soit social, c'est-à-dire que les gens s'y croisent, s'y rencontrent, aient envie d'échanger, de discuter. C'est une question que pose souvent le collectif Yes We Camp, à l'origine de cette démarche des Grands Voisins, à Marseille également, avec Coco Velten, un lieu qui a été créé et qui va être pérennisé d'ailleurs. Le temps de la transition, c'est souvent aussi un temps qui précède la démolition, notamment dans les grandes opérations portées par l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Et donc là, on a également de nombreux artistes qui considèrent important de travailler avec les habitants sur la mémoire des lieux, sur les souvenirs, qui inventent des rituels de deuil. Quand on a vécu 20, 30, 40, 50 ans dans un immeuble, c'était le cas ici à La Courneuve, le collectif Random qui habitait dans cet immeuble a inventé des rituels, des expositions, des performances avec les habitants pour les aider, encore une fois, à dire au revoir finalement à leur immeuble. Donc toutes ces approches se jouent dans le temps de la transition. La séquence suivante, c'est celle du chantier. Le chantier, c'est aussi un terrain de jeu pour les artistes. Le chantier, avec ses grues, on voit ici ce qu'ont pu faire les frères Ripoulin il y a quelques années, avec ces mobiles incroyables, Calder-Pillard, donc c'est un clin d'œil à la fois à l'artiste Calder, mais aussi à Caterpillard, l'entreprise qui fabrique des objets de chantier. Hein. Et donc on avait des suspensions poétiques au cœur du chantier. Le chantier, donc, c'est un terrain de jeu, un terrain d'aventure pour les artistes. Je voudrais vous montrer ici ces grues. Ça tourne pas. Tac. Ah, on n'a pas eu le temps de faire les réglages, donc c'est un petit peu fort peut-être. Merci. C'est une chorégraphe, Kitsou Dubois, et un compositeur, Alexandre Bouvier. Kitsou Dubois imaginait cette chorégraphie de grues sur un immense chantier à Bobigny. C'était il y a quelques mois. J'avais le plaisir d'y être et c'était tout à fait étonnant de voir ce détournement de fonction des grues, et de voir les grutiers d'ailleurs, qui ont été amenés à travailler avec cette chorégraphe pour, avec leurs grues, créer des mouvements harmonieux et un spectacle à l'échelle du grand paysage urbain, tout à fait incroyable. Le chantier, donc, c'est aussi un espace pour des plasticiens comme Stéphane Chanclan, qui lui récupère des déchets de chantier, des gravats, c'est ça, et qui les transforme, et qui a notamment imaginé un protocole qui s'appelle Marbre d'ici, qui lui permet, après avoir transformé ces gravats, de produire ce sol marbré, qui est donc à la fois un sol avec une valeur d'usage, encore une fois, qui répond à des normes techniques, et en même temps un geste artistique au cœur de la ville. Le chantier, c'est un lieu de rendez-vous, possiblement, pour du spectacle également. Le métro du Grand Paris Express donne lieu régulièrement à des KM, ce sont des rendez-vous donnés à la population pour découvrir, encore une fois, ce moment très important de l'inauguration du chantier. On pourrait encore citer de nombreux projets qui se joue pendant le temps du chantier, comme le travail du collectif de jongleurs Protocole avec Hélène Motto et WM. C'était il y a quelques années à la Courneuve. Et là, ce que vous voyez, cette image, c'est une inauguration de chantier, une pose de première pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des poses de première pierre. Ce sont des moments généralement assez protocolaires qui manquent un peu d'intérêt, on va dire, pour aller vite, hein, sauf bien sûr pour les parties prenantes, c'est-à-dire les promoteurs, les architectes et les élus qui sont là. Et je salue d'ailleurs Boris Bélanger, Fatma Nakib. Mais je n'ose pas leur demander s'ils apprécient ces moments-là. Mais non, je ne demanderai pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, on a invité des artistes pour cette pose de première pierre. Et alors, vous savez, il y avait 300 personnes, des habitants du quartier, sous la pluie, au mois de novembre, pendant 3 heures. Et si tout le monde est resté, c'est qu'il y avait autre chose que des discours un peu convenus, ou en tout cas qui n'étaient pas vraiment destinés à la population. Il y avait l'exploration du chantier et de ses ressources artistiques et plastiques. Hein. On voit comment les jongleurs vont jongler avec la boue, avec le sable. Et donc, on rentre finalement dans les coulisses de la ville en chantier. Ça, c'est passionnant. Et c'est là que le chantier n'est plus seulement un moment de nuisance, un moment de bruit, un moment un peu chaotique et incompréhensible. Le chantier devient, encore une fois, une matière artistique et l'espace d'une aventure culturelle, finalement, partagée. Et voilà, et toutes les parties prenantes de cette inauguration, de cette pose de première pierre, on avait tous convenu, voilà, ça peut être très intéressant, ce rituel du chantier. Voilà, on pourrait donner d'autres exemples. Je vais passer parce que je ne voudrais pas déborder, bien sûr. Donc je ne vais pas vous montrer cette image, ni ça. Alors ça, c'est la livraison, c'est un peu la même chose. Quand on livre un chantier, c'est pareil. Voilà, Boris Bélanger, Fatma Nakib, mais toi aussi, Damien, tu es architecte, tu connais ces moments de livraison. Comment en faire des fêtes? Comment en faire des rituels partagés? Comment en faire des moments qui ont une profondeur, un intérêt fort pour la population? On peut, encore une fois, travailler avec des artistes qui vont faire un travail artistique, qui répond à des exigences, à des ambitions, et qui en même temps vont aussi avoir une dimension culturelle. C'est de ça dont il est question. Enfin, on pourrait parler, pour terminer, de l'activation de l'espace public, l'activation de la ville, une fois qu'elle est faite, encore une fois, par le jeu. C'est par exemple ce que propose Laurent Perbos avec ses tables de ping-pong sur l'île de Nantes, ou bien, toujours à Nantes, ce terrain de foot, le Fedball, sur la place Fedo, qui a une particularité, c'est que le terrain est en pente et en forme de croissant. Alors évidemment, c'est pas du tout la forme convenable pour faire un terrain de foot, mais ils ont fait quand même, et ce terrain de foot donc, a une particularité, c'est que les buts ne sont pas pas face à face, mais côte à côte. Hein. Vous connaissez peut-être ce terrain. Donc c'est assez improbable hein, de jouer au foot, mais beaucoup de gens y jouent. Et surtout, l'idée des architectes artistes qui ont fait ce projet, c'est qu'il y a cette surface en miroir, en dibond, là, qui est convexe ou concave, je ne sais jamais comment on doit dire, mais en tout cas qui renvoie une image de ce terrain en forme de croissant, qui est un rectangle. Donc tout va bien, le terrain est rectangulaire dans l'image. Donc l'activation de l'espace public, évidemment, on pourrait donner des dizaines, des centaines d'exemples, c'est tout ce qu'on voit finalement comme geste, comme objet artistique dans la ville qui va activer la ville d'une certaine manière, activer en posant des questions. Là c'était par exemple le naufrage de Neptune à Nantes sur la place Royale. Que signifie ce navire naufragé qui est percé de trous, d'où sort de l'eau? Que signifie cet objet? Donc on a des questions posées au cœur de la ville, on a des questions aussi très étonnantes, comme celle du parfum. Quel est le parfum de Nantes? C'était posé dans le cadre du voyage à Nantes l'année dernière. On avait trois parfums et on pouvait choisir un des trois parfums. Comment voir le paysage? Tadashi Kawamata, artiste que vous connaissez peut-être, artiste japonais qui a fait Place de la Canourgue récemment une intervention et qui pourrait peut-être venir aussi dans quelques semaines à Montpellier. Tadashi Kawamata avait imaginé à Lavaux-sur-Loire un observatoire, voilà, qui est un objet avec une valeur d'usage et qui est aussi une œuvre. Felice Varini, à Saint-Nazaire, disperse des triangles, c'est une anamorphose dans le paysage, et ces triangles se recomposent à un endroit précis. Voilà, on pourrait parler de tout ce qu'on a fait dans la ZAD, finalement, au fil des années, mais on ne va pas le faire, parce qu'il me reste 10 minutes. Néanmoins, je vous montre une minute de film. Finalement, tout ce qu'on fait dans l'espace public, qui relève de l'acte artistique, que ce soit dans le cas de la ZAD, des projets de la Téline, ici à Montpellier et dans la métropole, tout ce qui se joue dans l'espace public va activer d'une certaine façon la ville et des types de relations dans la ville. Là, c'est le travail de mon voisin Al, que l'on voit à Boutonnet-Beaux-Arts. Donc voilà, l'art dans la ville pose des questions. Et parfois, l'art dans la ville, là, c'était du graffiti en braille. Il y avait marqué « Ne pas toucher ». Voilà. Et parfois, l'art dans la ville va activer aussi du débat et créer de la polémique. Et ça, j'aime beaucoup ce projet d'un collectif de designers, H5. Ce que vous voyez derrière, c'est l'hôtel Fornay, un monument historique où se trouve une bibliothèque graphique et d'histoire de l'art à Paris. Et en 2007, un panneau de chantier est apparu devant l'hôtel Fornay, dans le 5e arrondissement, près de Saint-Paul. Et un petit film a commencé à être diffusé. Ce petit film, il annonce que bientôt, prochainement, il y aura ici, sur l'hôtel Fornay, à la place de l'hôtel Fornay, un projet immobilier.
Immorose vous présente sa prochaine réalisation à Paris. Dans le cadre du futur réaménagement du quartier Marais-Rive-Seine, rue du Figuier, sur le site exceptionnel de l'ancienne bibliothèque Fornay, Immorose édifie un immeuble à l'architecture audacieuse, le Renaissance Fornay. Nouveau quartier d'affaires aux standards internationaux par de grandes signatures architecturales, Renaissance Fornay offre une adresse visible et valorisante en plein cœur du Paris historique. L'aménagement a bénéficié de toutes les technologies de pointe. Les cages d'escalier ont été déplacées et des ascenseurs high-tech permettent d'optimiser le temps d'attente des utilisateurs. L'immeuble bénéficie d'une desserte privilégiée par héliport privé depuis le Bourget, Charles de Gaulle ou Orly. L'ensemble privilégie sobriété et élégance dans le choix de matériaux naturels tels que la pierre, le verre et le bois, et allie modernisme et conservation du patrimoine au travers de façades renaissance conservées et de grands ensembles vitrés, avec notamment un restaurant panoramique à 360 degrés. Avec une surface totale de 6000 m², les trois niveaux supérieurs de l'immeuble accueilleront des bureaux en prestations haut de gamme et baignés par un puits de lumière naturelle. Enfin, idéalement situé dans le futur circuit marchand de l'ensemble Marais-Rive-Seine, deux enseignes de grande notoriété s'y implanteront, présentant une offre qualitative élargie en équipement de la personne et équipement de la maison. Courant 2008, à l'issue du chantier, qui sera mené dans le strict respect de la démarche haute qualité environnementale, Immorose livrera cet ensemble hautement qualitatif qui renforcera le circuit marchand de la rive Seine du Marais.
Donc, Immorose, attention. Et vous allez voir les logos de tous les partenaires de ce projet fictif, donc, hein, qui a suscité une énorme polémique, vous imaginez, dans le quartier du Marais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien, justement, l'histoire, c'était provoquer un débat public sur la Disneylandisation de la ville, sur la question de savoir qui fait la ville, la question que je posais au début de cette conférence, qui fait la ville? Eh bien, on le sait, de plus en plus, la ville, elle est faite par des promoteurs comme Immorose, qui vont emballer leur projet de mille manières, hein, pour séduire les médias, la population, les élus, etc. Et qui parfois vont produire de l'espace public d'une façon assez peu convaincante, on va le dire, les choses comme ça, parce que ça n'est pas leur préoccupation, parce que l'intérêt général ne fait pas partie de leurs enjeux, évidemment. Les promoteurs sont d'abord là pour faire de la promotion immobilière, bien sûr, on ne va pas leur reprocher. Donc là, on met le doigt sur un sujet très important, et je trouve d'ailleurs assez courageux que la ville de Paris ait soutenu ce film dans le cadre de La Nuit Blanche, hein, la ville de Paris qui a ensuite, à peu près à la même époque, lancé le grand programme des Tours du Haut de Jean Nouvel, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très très loin de ressembler à ce qu'on vient de voir là, mais cette fois-ci dans la réalité et pour plusieurs décennies. Voilà, les contradictions des villes sont pointées, ou en tout cas les questions sont ouvertes par les artistes. On pourrait aussi évoquer ce projet, là c'est en Autriche, à Vienne, c'est la Karl Platz, et c'est pareil, un collectif a installé cette virgule de Nike et a installé une petite boutique là sur la place en disant bah écoutez voilà, la ville manque de moyens, donc la Karl Platz va être baptisée Nike Platz. Alors nous avons évoqué les 7 ans de la fabrique urbaine et comment les artistes pouvaient s'y immiscer, en ayant des propositions qui transforment la ville, en nous invitant à faire une autre expérience du paysage, en produisant des œuvres donc, qui ont une valeur d'usage, comme on l'a vu, des grilles, des fontaines, etc., en ouvrant de nouveaux imaginaires urbains, hein, on parlait des parfums tout à l'heure, en nous invitant à jouer également, en posant aussi des œuvres critiques, donc ce sont les exemples que je viens d'évoquer à l'instant, mais ce sont aussi parfois des œuvres qui augmentent l'imagibilité de la ville, c'est-à-dire qui nous aident à nous repérer, qui marquent des quartiers ou des rues un peu anonyme, qui les singularise. Voilà. C'est comment l'art aussi nous aide à singulariser la ville. Et nous avons besoin de villes singulières, c'est très important. Nous avons besoin aussi d'œuvres qui produisent du commun, de l'art en commun, pour nous aider, à réinventer aussi les formes du collectif en contexte démocratique. Ça, c'est le titre d'un livre absolument passionnant, dont je vais vous montrer la couverture après. Des œuvres qui créent de l'attachement et pas uniquement de l'attractivité. On ne peut pas uniquement, quand on fabrique la ville, développer l'attractivité. Il faut travailler aussi sur l'attachement, nos attachements, nos liens, nos relations à la ville. On doit aussi souligner que certaines de ces œuvres peuvent développer l'incapacitation des citoyens. On a aussi parfois des œuvres empuissantantes, c'est-à-dire qui contribuent à mettre en œuvre non pas la démocratisation de la culture, mais la démocratie culturelle et les droits culturels. Donc ça, c'est très important, des œuvres qui finalement favorisent des formes de participation qui soient pas uniquement, je dirais, minimalistes, hein, où il s'agit juste de prendre part, mais qui nous invite aussi à apporter notre part. C'est ce que la philosophe Joëlle Zask a développé dans cet essai. Des œuvres qui nous invitent à contribuer finalement et qui nous permettent aussi de bénéficier. Donc ça, c'est un enjeu également de beaucoup des œuvres que j'ai citées. L'art en commun, voilà, c'est ça l'ouvrage dont je voulais vous montrer la couverture, d'Estelle Zumengual. C'est un art transformateur finalement et qui produit de la relation, qui configure des relations entre les personnes tout en produisant encore une fois des objets. Voilà, donc en résumé, il me reste 4 minutes, donc ces créations peuvent affecter le processus classique de la production urbaine, et c'est passionnant, elles peuvent enrichir le diagnostic d'un territoire, sensibiliser les habitants dans les phases de concertation, favoriser la participation, singulariser les villes, etc. C'est un simple résumé de ce que j'ai évoqué, hein. Elles peuvent donner une plus grande place à la subjectivité aussi chez celles et ceux qui font la ville, les chefs de projet, les techniciens qui travaillent dans les collectivités ou chez les aménageurs, qui se trouvent engagés d'une façon très intéressante. Et je voudrais vous montrer à ce propos le témoignage d'une jeune urbaniste qui a participé justement à un projet artistique dans le cadre de la fabrique urbaine.
moi, en tant qu'urbaniste, ça m'intéresse de travailler avec des artistes, et notamment ça m'intéresse de travailler avec des artistes sur une résidence longue, parce que ça me permet de décaler mon regard, et ça me permet aussi de sortir de mes outils professionnels de base, et notamment des outils qui sont très abstraits, la carte, et puis ici quand même le tableau financier, enfin c'est ça nos outils. Et avec les outils des artistes qui étaient ici, une démarche sensible auprès des habitants, ça permet d'observer des usages, de les comprendre et de les rencontrer.
Voilà, sortir du tableau Excel, sortir de l'approche chiffrée, et ça c'est très intéressant. C'est extrait d'un film qui s'appelle Culture la ville, qui développe des focus sur 5 projets artistiques dans le cadre de démarches de transformation urbaine. Voilà, donc ce sont des créations qui peuvent affecter le processus de la production urbaine en déspécialisant aussi, en contribuant à la déconstruction des représentations et des catégories, et puis donc en amplifiant la place du sensible. Mais ce sont des projets aussi compliqués, parce que l'art dans la fabrique urbaine, on va en parler aussi, hein, c'est peut-être parfois un anesthésiant politique, quand l'art se contente d'être cosmétique. C'est aussi un problème et une limite de ces démarches lorsque les artistes et les acteurs culturels ne sont invités qu'à la fin du processus de la fabrique urbaine, quand tout est déjà décidé, quand l'artiste n'est finalement qu'un agent de surface, ou quand il n'est qu'un supplétif de la communication et du marketing territorial, ce qui arrive, il faut le dire souvent, et c'est un espace difficile, cet espace que je définis comme étant celui de l'urbanisme culturel. Et puis aussi, bien sûr, parmi les questions que pose ce type de démarche, c'est que la création artistique peut être parfois un accélérateur de la gentrification. Et même, on a aussi une question posée par des chercheurs sur le fait que ces démarches produisent de la domestication, c'est-à-dire un art qui finalement va rester très docile et très neutre au fond. Donc voilà pour évoquer ces 7 phases de la fabrique urbaine. Alors, il me reste 2 minutes. Je voudrais dire un mot de Transat. Transat, c'est un programme que nous lançons ici, donc avec la ville de Montpellier, un programme d'urbanisme culturel parallèlement à la ZAT. La ZAT, c'est un rendez-vous, voilà, une fois par an dans l'espace public. Mais Transat, c'est un travail qui va se faire tout au long de l'année et qui va contribuer. On le souhaite à transformer la ville de manière pérenne avec des artistes. Et là, je vais juste vous dire un tout petit mot d'un projet qui vient de commencer au parc René Dumont près de la gare, dans le quartier Nouveau-Saint-Roch. Le maire de Montpellier souhaite une œuvre dans ce parc, et une équipe qui est d'ailleurs là ce soir, Juliette et Marine, voilà, elles sont là-haut, vous pouvez lever la main plus haut, comme ça si vous voulez discuter avec elles tout à l'heure vous pourrez. Elisa également Dumais, qui n'est pas là ce soir, mais une équipe est à l'œuvre, justement en travail, dans ce parc René Dumont, pour faire un travail d'enquête. Il y a d'ailleurs un rendez-vous, si vous habitez juste à côté du parc, ou si vous fréquentez ce parc, vous pouvez samedi aller rencontrer Juliette, Marine, j'y serai aussi, et puis des artistes et des architectes urbanistes seront également présents, comme Damien. L'objet de ce rendez-vous, comme de cette enquête de manière générale, c'est d'essayer d'identifier dans ce parc René Dumont des questions, des sujets, des besoins éventuellement, qui soient liés aux usages, qui soient liés à l'environnement, pour ensuite proposer aux artistes un cahier des charges qui soit aussi un cahier de ressources pour imaginer une œuvre qui soit donc contextuelle et qui ait une grande pertinence. Et ça, en résumé, le programme Transat, c'est enquêter pour associer ensuite des artistes qui proposeront des œuvres et donc des aménagements et qui auront une vraie pertinence et qui pourront peut-être répondre à de vraies questions. Donc là, Juliette, Marine et Lisa ont déjà, depuis la fin du mois d'août, repéré un grand nombre de sujets et de questions. Mais samedi, il s'agira de continuer d'échanger avec ceux qui viennent promener leurs chiens, faire du sport ou essayer de faire une sieste simplement dans le parc, pour repérer encore une fois des points d'accroche. Alors toutes ces questions, si vous voulez continuer à les explorer, voici 4 publications que j'ai eu l'occasion de faire. Donc la revue Klaxon, dont je vous ai déjà parlé, dont j'ai quelques exemplaires ici imprimés, c'est un PDF, donc si vous voulez en avoir une version imprimée, je peux en mettre à votre disposition. Il y a un petit article dans la revue de l'Observatoire également, dans cet ouvrage aussi, la fabrique de la ville, fabrique de culture, et puis également dans un autre ouvrage en ligne qui s'appelle Les nouveaux défis de l'espace public. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Al. Je crois aussi que c'est un peu sous la forme d'une discussion, voilà, pour que ce soit un peu mouvant, quoi. Donc, je te laisse la parole, Al.
Merci, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à la Panacée ce soir. Merci Pascal pour ces échanges et cette analyse très riche. Merci Damien pour l'invitation, Damien et Pascal. Et la question elle tombe très bien puisque ça fait une très bonne transition sur la présentation précédente de Pascal et les sujets qu'on va aborder. Donc je me présente rapidement, je suis un artiste plasticien montpelliérain depuis une quinzaine d'années maintenant et j'ai pu mettre en place différents types de projets dont certains justement, une grande majorité se sont fait de volonté personnelle et collective. Personnel parce que c'était des projets qui ont été mis en place un petit peu avec les moyens du bord au début et qui m'ont permis par la suite d'en mettre aussi en place avec des collègues et des événements riches et interdisciplinaires. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a 20 minutes je crois. On va vous présenter trois projets. Je vais laisser Pascal introduire cette discussion-là. Et
je vais aller très vite. Hein. C'est pour te donner la parole tout de suite, pour te la rendre tout de suite. En 2012, un projet que tu as mené à Celle-Neuve, dans le cadre de la ZAD, mais on voulait l'évoquer parce qu'il est au cœur du sujet, t'as amené en fait à investir ce quartier de Celle-Neuve et à proposer donc une création que moi j'avais trouvée absolument passionnante, qui s'appelait Réflexion urbaine, qui était une réflexion sur l'urbanisme montpelliérain dans ce quartier de Celle-Neuve où tu as essayé de présenter finalement synthétiquement quelques éléments de l'architecture montpelliéraine. Est-ce que tu peux nous raconter finalement quel était le point de départ et quelle forme tu as imaginé?
Oui, bien sûr. Donc c'était en 2012, avril 2012, même auparavant. L'année précédente, tu m'avais contacté, même on s'était croisé dès la première ZAD à Antigone. On avait essayé de travailler ensemble sur les éditions suivantes. Ça n'avait pas été évident pour des raisons de terrain pas appropriées. Et Celle-Neuve tombait à pic puisque tu m'as parlé de ce quartier-là, le quartier de la Fontaine, qui est une extension de Celle-Neuve. Celle-Neuve, il faut savoir que c'est un vieux quartier de Montpellier, qui est même plus vieux que Montpellier. Ça a été inclus à la ville par la suite. Et il y a un faubourg très ancien, plein de charme. Et ce quartier-là de la Fontaine, qui s'est construit dans les années 90 par l'architecte Antoine Diaz-Garcia, très proche de M. Frech, feu Georges Frech. Et je suis donc allé sur place, j'ai rencontré les habitants et j'ai découvert sur ce territoire-là une urbanité, un urbanisme assez particulier. On avait d'abord une grande place cernée par des sortes de grandes arches à la suite comme ça sur une grande étendue qui nous amenait par la suite à une grande descente faite de piliers que vous pouvez voir ici, ils ont été investis. On n'a pas pu vous amener des photos d'avant l'investissement parce que j'avais plus d'électricité hier soir et puis l'un disque dur qui avait cramé, mais vous pourrez imaginer très bien le lieu sans ces interventions-là. Et à la fin, donc la fameuse fontaine qui était toute en longueur. Et je me suis pris à imaginer, je ne sais pas si c'était le souhait de M. Diaz-Garcia, qu'il avait voulu reproduire, avec un effet miroir, d'où le nom de réflexion urbaine, la ville de Montpellier dans son passé, son quasi-présent, et un avenir désiré et voulu par M. Frech et lui-même.
Avec le port et la mer.
C'est ça. On retrouvait à travers ces grandes arches qu'on voit ici. Ouais. Alors la première, elle n'est pas arche, c'est un carré, mais sinon c'était que des arches à la suite.
On retrouvait les arceaux.
C'est ça que tu as vu, toi, dans cette architecture. J'ai vu l'aqueduc des arceaux, construit en 1765 par Henri Pitot, auquel j'ai voulu y ajouter les habitants de Celle-Neuve. J'ai travaillé avec 163 habitants pendant 3 mois, aller sur place, aller rencontrer, à échanger avec eux, expliquer le projet, qui n'était pas une mince affaire, et leur demander de poser pour réaliser une mise en scène qui pourrait prendre forme sur l'histoire qu'on voulait narrer, à savoir l'histoire de la circulation de l'eau, de la construction de l'aqueduc jusqu'à aujourd'hui. Par la suite, ces grands piliers-là, j'ai vu l'extension de la ville de Montpellier, notamment le quartier Antigone, par M. Ricardo Beaufil, et sur lesquels donc, on a repris l'architecture d'Antigone et intégré également des éléments, des personnalités du quartier, des personnalités, des citoyens, en tant que piliers également. La fin du projet se déroulait sur la fameuse fontaine, qui est donc la fin d'Antigone, où on arrive à la place de l'Europe, donc au bord du Lez. Le Lez qui circule jusqu'à Palavas, coupé en deux par la nouvelle mairie et le nouveau quartier de Port-Marianne, qui n'était pas du tout prévu à l'époque de la construction du quartier. Donc est-ce que c'était une écriture de l'architecte avec de l'urbain pour annoncer peut-être ce futur probable qui ne s'est pas fait et que j'ai voulu représenter sur ce projet-là?
c'était vraiment une image de la ville dans un fragment de la ville.
On y réfléchit.
Et, et c'était passionnant, presque une leçon d'urbanisme finalement, avec des moyens plastiques. Le deuxième projet qu'on voulait évoquer, c'est ce que tu as fait aux Arceaux, dans une maison, propriété de l'architecte François Fontès, que tu as investi pendant plusieurs mois.
Oui, alors ça c'est une belle histoire et qui est arrivée au préalable de la ZAT en fait, mais le projet s'est fait après. Monsieur Fontès, qui est un architecte montpelliérain qui est très intéressé par la culture, nous a contacté avec deux autres amis qui viennent du graffiti, à savoir Salamèche et Small, et il nous a proposé cet pavillon qui était aux Arceaux, qui devait être démoli prochainement, et il nous a dit: j'ai vu vos travaux, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, si vous avez besoin d'un atelier, je peux vous laisser cet espace, vous prenez les clés et vous l'aurez pour une année, deux ans grand maximum. Évidemment, on n'a pas dit non. On a récupéré ce lieu-là, qu'on a personnalisé, qu'on s'est approprié, dans lequel on a travaillé. J'ai pu y réaliser, y préparer la ZAD justement de Celle-Neuve. Et en fait, on était à une époque où il y avait vraiment un vrai engouement autour des arts urbains, une vraie demande de la population à découvrir un petit peu plus que l'aspect visuel qu'ils avaient en face du mur, qu'ils pouvaient découvrir. Et je leur ai proposé d'écrire ce projet-là, parcours, où on a utilisé la maison du sol au plafond, sur tous les murs, pour représenter le parcours initiatique d'un artiste urbain, de la salle de classe, des premiers coups de crayon, des premiers dessins au compas ou au stylo sur la table ou sur papier, en passant par la chambre d'adolescent avec les différentes influences que nous trois on avait pu avoir, l'espace rue qui était le centre de la maison et que vous pouvez découvrir ici. Il y avait également les toits qu'on peut fréquenter pour avoir une vue plus importante sur la ville et laisser aussi une trace, les usines désaffectées, les voies ferrées, la garde à vue également, parce que certains des collègues du projet avaient fait de la prison pour du graffiti, le métro au sous-sol et la galerie à l'étage, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui était un moment du parcours qu'un artiste urbain peut avoir.
Toute une vie dans une maison, c'était passionnant de découvrir ces différentes pièces. Et puis, c'est passionnant aussi de voir comment, c'est de l'urbanisme transitoire, hein, une maison vouée à être détruite, démolie, peut vivre autrement pendant quelques mois et peut révéler aussi, du coup, l'intérêt qu'elle peut avoir. Et c'est ça qui est entre autres intéressant dans ce projet, c'est que du coup cette maison elle n'a pas été démolie. C'est-à-dire le regard que tu as amené avec tes deux collègues, que tu as porté sur cette maison, elle a contribué à faire changer le regard du propriétaire et qui a décidé de ne pas la démolir, c'est ça?
Oui, complètement. Ouais. On a travaillé, je pense, 9 mois sur le projet à le préparer. Donc, mis à part ce grand cadeau de M. Fontès de nous laisser ces clés-là pour utiliser le lieu, on a tout fait avec les moyens du bord, en récupération, avec des partenariats, avec de la gestion de pirates, et on a eu 44 jours d'exposition. Ça a été un grand succès, effectivement. On peut voir la file d'attente pour pouvoir rentrer sur le lieu. C'était gratuit, évidemment, pour tout le monde. Et suite à ça, donc devant ce grand succès-là, Monsieur Fontès a décidé de laisser ce lieu ouvert. Ce n'est plus ouvert au public. C'est un atelier privé où d'autres se sont greffés. Moi, j'en suis parti en 2015, Small aussi. Et maintenant, c'est un atelier donc qui regroupe 5 ou 6 artistes qui travaillent quotidiennement sur ce lieu-là.
Et le troisième projet, Damien en a parlé tout à l'heure, que tu vas nous présenter, c'est le projet Delta, un projet absolument incroyable qui n'a pas eu, à mon sens, l'audience qu'il aurait mérité, mais justement c'est l'occasion d'en parler. Raconte-nous un peu ce qui s'est joué autour de cette friche à Figueroles, la friche Mimi.
Donc effectivement, c'est une histoire totalement incroyable et fantastique. Déjà l'histoire de ce lieu-là, donc c'est le quartier Figueroles, une ancienne friche artisanale. C'est un terrain qui a été acquis en 1923 par un monsieur, le grand-père du propriétaire actuel, l'ex-propriétaire actuel, qui a implanté une menuiserie, scierie, charpenterie, qui a employé de nombreux habitants du quartier de Figueroles jusqu'aux années 90. C'est la partie la plus méconnue de l'histoire et qu'on va essayer de remettre en avant de par le projet Delta, une partie du projet. Et ça a également été un grand lieu culturel par la suite. Et la fille de ce propriétaire-là, Mimi, la fameuse Mimi, est décédée en 2017, et donc le lieu allait disparaître. J'ai eu la chance, de par une rencontre avec le propriétaire, de pouvoir investir un appartement d'abord, parce que c'est pas tout le temps évident d'avoir une location à Montpellier, vous devez être au courant, et j'avais eu la possibilité de récupérer un vieil appartement dans les logements qui sont les toits rouges. En fait, il y avait un appart qui était disponible, tout le site avait été vidé. Il n'y avait plus aucune activité artistique et surtout c'était le premier jour du confinement. Donc mi-mars 2020, je crois, j'arrive. Je suis désolé, vous allez être jaloux, mais j'ai eu 5000 m² pour moi pendant les confinements. Donc ça a été une très belle histoire, donc aussi au début assez solitaire. Les propriétaires étaient juste au-dessus, on ne pouvait pas se voir, je ne voulais pas les contaminer ou prendre des risques avec eux. Et le panorama que j'avais devant ma fenêtre était à l'image du monde culturel, vraiment au niveau international, c'est-à-dire un site qui avait une histoire immense, très riche, où de nombreuses compagnies et artisans s'étaient produits et avaient travaillé. Et désormais, ce site-là était fantomatique, il ne se passait plus rien, certains des hangars s'étaient effondrés, c'était une image vraiment post-apocalyptique dans le contexte sanitaire actuel. C'était une période qui était assez compliquée aussi pour travailler dans la culture, les salles de concert étaient fermées, les lieux d'exposition également, c'était très compliqué de simplement sortir, enfin vous connaissez, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et l'idée m'est venue de créer un projet au sein de ce lieu-là, puisque c'était privé, on pouvait faire un peu plus ce qu'on voulait. Et en regardant un petit peu l'image de ce lieu-là, d'en haut, voilà, j'ai choisi donc d'inviter quasiment 300 artistes sur le projet pour raconter à la fois l'histoire du lieu.
Et d'appeler le projet Delta, parce qu'on voit bien que c'est la forme de la parcelle aussi.
Exactement, ouais, ça vient de là, ouais. Et donc oui, le projet intitulé Delta, avec ses trois axes principaux que sont le passé, à savoir l'histoire du lieu, sur le lieu d'artisanat, le lieu de culture, puis sur un autre axe qui sera le présent, et donc le présent c'était le confinement, les normes, les contraintes sanitaires et sociales qu'on a expérimentées et représentées par différents acteurs culturel. Vraiment, c'est un projet qui est interdisciplinaire. Donc, on a travaillé avec des architectes, on a travaillé avec des danseurs, de nombreuses compagnies de théâtre, des artistes plasticiens, des musiciens de l'orchestre de l'opéra, des danseurs, enfin voilà. Allez voir, je vous laisserai l'adresse à la fin du site internet pour que vous puissiez voir par vous-même. C'était vraiment une grande aventure. Elle commence avec le chapitre numéro 1, donc un des premiers hangars qui était dans cet état-là, de prime abord, et dans lequel on a voulu représenter l'histoire de l'entreprise de menuiserie en invitant deux photographes, Federico Drigo et Laurent Villarem, qui ont récupéré beaucoup d'images d'archives et également des images du quartier. On a fait une grande frise historique à base de photographies en noir et blanc et de collage sur l'ensemble du hangar que vous avez vu précédemment, et une sculpture réalisée au centre par CapCab Architecture avec les morceaux de bois trouvés sur place. Voilà, donc on ne pouvait pas inviter du monde pour ce projet-là. L'ensemble des étapes, des chapitres ont été diffusés sur le site internet et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ce site-là. Le chapitre suivant, donc le numéro 4 pour l'axe présent, là on parle du confinement. Il y a 8 artistes qui sont invités à investir ce hangar là, c'est un hangar différent à chaque fois, et Vincenzo Valentino Susca, qui est le directeur du département sociologie de la fac de Montpellier, a écrit un manifeste remarquable sur la situation qui est en parallèle du tournage de la vidéo. C'est une vidéo qui est faite au drone, il n'y a plus personne qui est dans le site, c'est vraiment un temps de confinement, et j'ai demandé une seule contrainte aux artistes, c'est de ne pas finir leurs œuvres, comme si le lieu avait été déserté soudainement, comme ce fut le cas au confinement. Donc Quentin DMR, vous pouvez retrouver Nadège Ferron, Docteur Ponce, Arcane, Primal, Clara Langelaise ici, qui ont investi ces lieux-là, et la vidéo est à retrouver donc sur le site également. Le chapitre suivant, le numéro 12 de l'axe futur. Le dernier axe voulait une représentation hybride et interdisciplinaire des acteurs locaux culturels de Montpellier, autant que faire se peut. Il y avait 60 artistes. Ici, on peut voir Nils Berthaud, Mathieu Moulin, Cléa Lala également, qui ont investi les 50 pièces des différents appartements. On a un énorme plan séquence qui dure 15 minutes, dans lequel la caméra évolue et laisse découvrir de nombreux artistes et de nombreuses disciplines culturelles et artistiques locales. Ici, c'est Sandra et Pedro. Là, c'est Lunatica qui travaille des NFT et qui est plus sur un art numérique. Je vous conseille vivement de découvrir cette vidéo-là.
Ah oui, ce plan séquence est incroyable. C'est extraordinaire. C'est un vrai plan séquence.
Tout à fait.
Combien de temps il vous a fallu pour le réaliser ?
4 sessions, ouais.
Mais il est fascinant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais précipitez-vous sur le site du projet Delta, chapitre 12. Voilà, les autres aussi, mais celui-ci en particulier.
Ouais, et vraiment, ce qu'on voulait faire avant tout sur ce projet-là, c'était rendre hommage au lieu tel qu'il avait été et existé, de témoigner aussi de la situation actuelle telle qu'on la vivait, de la conserver, de la diffuser, d'avoir une trace, puisque ce lieu n'est plus aujourd'hui. On a le site internet qui restera, je l'espère, aussi éternel qu'internet, et sur lequel la mémoire restera gravée le plus longtemps possible. Je vous invite vraiment à découvrir ces différents épisodes, ils sont au nombre de 12, sur le site www.delta-montpellier.art, comme indiqué ici-bas.
Bravo, merci pour cette présentation.
Merci.
C'était l'enregistrement intégral de la deuxième rencontre intitulée « Demain, des artistes associés à la fabrique urbaine » dans le cadre de « Demain, l'espace public », cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter les deux entretiens consacrés l'un à Pascal Lebrun-Cordier, directeur artistique de la ZAT, et l'autre à Al Sticking, artiste, les deux invités de cette rencontre. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture.